un pas de côté.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine d'évasion touristique en Vercors-Drôme, un pas de côté. C'est un magazine qui est réalisé en partenariat avec les offices de tourisme Vercors-Drôme à Saint-Jean-en-Royans, à La Chapelle en Vercors ainsi qu'à Saint-Nazaire en Royans. Nous sommes en studio en compagnie de Maëva, chargée de communication à l'office de tourisme Vercors-Drôme. Bonjour Maëva.
Bonjour Anouchka.
Nous sommes heureuses de vous retrouver, comme d'habitude, pour une nouvelle édition d'Un pas de côté. Nous sommes donc maintenant en juin 2024, après un mois de mai plutôt humide. Est-ce qu'on ose enfin parler d'été, de soleil, Maëva ?
Juin s'installe doucement sur le Royan-Vercors avec quelques rayons de soleil qui pointent enfin le bout de leur nez. Donc de quoi avoir envie de profiter de la nature, se balader, voire même jardiner. Les plantes ont d'ailleurs la côte en ce moment dans le Vercors, n'est-ce pas Anouchka ?
Et oui, tout à fait Maëva, les plantes qui sont d'ailleurs au cœur de l'activité de Véronique Thierry, qui est naturaliste, botaniste et artisane aux multiples casquettes. Pour notre premier sujet de reportage, nous vous proposons une découverte de son atelier baptisé Chlorophylle. La pratique de Véronique Thierry est engagée en faveur d'une production textile respectueuse de l'environnement, notamment en se tournant vers les ressources locales, qu'il s'agisse donc de laine ou de plantes du Vercors. En mars dernier, Radio Royan Vercors s'est rendue dans son atelier à La Chapelle en Vercors pour partager sur nos ondes la magie de la teinture et du feutrage. On écoute.
Un pas de côté.
Je suis bien heureuse de faire s'épanouir des couleurs à partir des plantes. Le message, c'est aller cueillir les couleurs des végétaux pour s'émerveiller de ses beautés, mais en même temps, pourquoi pas récupérer aussi les propriétés de certaines plantes dans les textiles que l'on teint. Mais on peut aussi simplement faire des encres pour faire des peintures, des créations de peintures avec tout public. Je m'appelle Véronique Thierry, je suis guide naturaliste à la base, enfin biologiste de formation, et la vie a poussé à ce que je vienne m'installer dans le Vercors il y a une trentaine d'années maintenant. Avec une association qui s'appelle Miltrace, qui est une association d'éducation à l'environnement et de protection de la nature. Et le fil qui m'a amené à développer l'atelier Chlorophylle, justement, ben, finalement, ce sont les plantes, puisque j'ai toujours été passionnée par le monde végétal et la transmission, l'éducation, la transmission auprès du grand public. Et c'est pas si facile que ça d'arriver à transmettre une vraie émotion, une vraie connaissance, une vraie sensibilité sur le monde végétal. Autant il est très facile d'emmener les gens dans la nature à la découverte des animaux, tout le monde est partant, tout le monde s'émerveille devant une marmotte, mais s'émerveiller devant un pissenlit, c'est moins évident. Et pourtant, le pissenlit a tellement de choses à nous raconter, tellement de propriétés, tellement de rapports avec l'humain depuis la nuit des temps que je trouve ça dommage de passer à côté. Et ce qui me plaît beaucoup dans tout ça, c'est de redonner du sens aux ressources locales et par ce biais-là, participer à la sensibilisation à l'environnement. Alors plutôt que d'approcher le sujet par au-dessus, je me suis dit, ben moi je vais commencer par en dessous, ici, dans le Vercors, et je vais utiliser ce que j'ai autour de moi. Je vais me consacrer à la laine, parce que dans le Vercors, il y a plein de moutons, et donc il y a plein de laine. Et étant donné qu'aujourd'hui, c'est un déchet, la laine de mouton, je me suis dit, ben, je vais essayer de participer à redonner de la valeur à cette matière première qui est extraordinaire. Voilà.
Là-dedans, tu as de la...
La toison que tu as devant les yeux, c'est une toison feutrée. Là, comme tu peux le constater, il n'y a pas de peau. À la place de la peau, tu as une couche de laine. En fait, ça, c'est de la laine feutrée. C'est vraiment l'étape la plus simple, la plus immédiate pour passer du dos du mouton à un objet fini. Ça, c'est la toison d'une brebis entière. Donc elle est assez
et elle vient d'où, cette brebis ?
Celle-ci, c'est Saint-Agnan en Vercors.
Ah, c'est
une brebis de race Île-de-France. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo, tu peux voir la tache encore rouge là. C'est la peinture de marquage de la brebis. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait exprès de la garder aussi, cette marque. Ça a une histoire, quoi. Après, il y a tout le volet artisanal de transformation de la laine en partant de la laine brute pour la laver, la carder, la feutrer, la filer, la tisser, tricoter, crocheter. Enfin, tout ça, chaque fois, c'est un monde. Chaque étape peut être un monde en soi. Alors, pour l'approvisionnement des plantes, il y a quatre choses. D'une part, il y a de la cueillette, donc dans le Vercors. Donc, ça peut être des feuilles, ça peut être des baies, voilà, principalement. Il y a du jardinage. J'ai un tout petit jardin où je cultive les fleurs qui permettent d'avoir certaines couleurs, comme le cosmos sulfureux, la camomille des teinturiers, des choses comme ça. Et sinon, j'achète ce que je ne peux pas produire ou récolter, comme la racine de garance ou le pigment d'indigo, des choses comme ça. J'achète le plus proche possible. Et puis après, c'est ce que l'on pratique quand on fait les stages et tout ça. On apprend à préparer cette laine pour qu'elle accueille la couleur. Ça, c'est l'opération de mordansage pour qu'elle accueille la couleur. C'est un aimant à couleur, si tu veux. Là, tu vois, là, j'ai fait du bleu il n'y a pas longtemps. Les autres couleurs que moi, je pratique ici, c'est de la teinture par ébullition. C'est-à-dire qu'on fait comme une sorte de tisane, si tu veux. On extrait les couleurs des plantes dans de l'eau chaude. On met notre laine qui a été préparée dans ce bain et la couleur s'accroche. Donc, j'attends que ça blou-bloute et tout ça. Je laisse refroidir dans le bain jusqu'au lendemain. Et quand je reviens le lendemain, je me dis, mais qu'est-ce que ça va donner? Je sais globalement vers quoi je vais, bien évidemment. Mais à chaque fois, je trouve ça fantastique. Et alors, le bonheur, le grand bonheur, c'est quand je dose, parce que récolter, ça prend du temps. Donc, j'essaie de doser. Et le grand bonheur, c'est que quand j'arrive, quand je retire la laine, qu'elle a une belle couleur et que l'eau est transparente. C'est-à-dire que tous les colorants ont migré sur la laine. Alors ça c'est une grande joie, quoi. Parce que tu te dis, voilà, j'ai optimisé l'énergie que j'ai mis à faire ça. Et puis là, tu me disais, tiens, est-ce qu'on a les couleurs du Vercors? Tu vois, par exemple, le hêtre, qui est quand même l'arbre du Vercors, hein. Le hêtre peut te donner ces couleurs. Alors, comment t'appelles ça?
Caramel.
Voilà, ok, on est d'accord. Caramel. Quand on nuance au fer, on obtient du noir.
Et alors là, attends, tu as utilisé le bois, la feuille, l'écorce.
Là, regarde, feuille sèche.
Donc, voilà. C'est une démarche assez expérimentale. Tu te balades, tu récoltes.
Voilà, je récolte. Ou alors, mon voisin taille un érable. Il y a trois branches par terre. Je vais récolter les feuilles d'érable. Voilà, ça, c'est chouette.
Et donc, il y a beaucoup d'émotions dans le processus, en fait. De la cueillette jusqu'à la fin, à la transformation, à la teinture.
Oui, parce que partir se balader et revenir avec ce que tu sais qui va donner des couleurs, c'est quand même une grande satisfaction aussi, quoi. Et en fait, tous les arbres, ça va être un peu ça. Tu vois, quand tu pars des feuilles, le frêne, là, au lieu d'être dans du caramel, tu vas être dans du jaune. Ça, c'est l'érable, l'orme. Donc là, il y a du chêne, un pommier sauvage. Regarde ces couleurs magnifiques. C'est trop beau. Ça, c'est des couleurs très automnales, quoi. Magnifique. Le cornouiller sanguin, le noisetier, la viorne, l'antane, le prunelier. Voilà, en fait, tu peux en utiliser le troène, qui est magnifique. Le brou de noix. Alors, hein, on est dans un territoire où le noyer est très présent. Donc, les feuilles, les brous après la récolte. J'utilise pas, évidemment, le fruit vert, hein, parce que sinon, tu n'as plus la noix derrière. Donc, c'est un peu dommage.
C'est une pratique quand même assez reliée aussi au rythme de la nature, quoi.
Oui, mais tu vois, j'ai fait un stage il y a 15 jours, 3 semaines. Et en fait, on est allé récolter ce qu'il y avait à ce moment-là, c'est-à-dire des baies. Il restait les baies de Troène, les baies de Nerprin sur les arbustes. Donc, on a récolté ça. C'est quand même aussi ça, c'est de me dire quelles sont les couleurs que l'on peut récupérer sur un territoire donné. Bon, moi, c'est le Vercors, mais autour de soi, comment le territoire est marqué par sa couleur invisible, parce que c'est dans les végétaux, mais qu'est-ce que ça peut donner? Et donc, je trouve ça assez sympa.
Et du coup, toi, dans tes ateliers, quand on s'inscrit à un de tes ateliers, on vient teindre de la laine?
Oui, alors je fais différentes choses, hein. Je fais des ateliers de 2 heures pour des familles avec des enfants un peu petits, où là, y a soit la magie des couleurs, on apprend à faire une encre à partir de quelques fleurs, ou bien on fait une petite balle rebondissante. Les enfants travaillent la laine, donc en fait ils malaxent, ils patouillent avec de l'eau, du savon, ils mettent les couleurs qu'ils veulent et puis hop, ils repartent avec une petite balle en laine. Là, c'est vraiment une première découverte. À des journées, une journée où là, c'est pour des adultes avec des enfants de plus de 11 ans qui ont un petit peu plus de patience, parce qu'on rentre un petit peu plus dans la technique pour être un peu capable de faire certaines choses tout seul quand on est rentré à la maison, savoir quelles plantes on peut récolter, tout ça. Jusqu'au stage, alors jusque maintenant, je fais des stages de 2 jours maximum. Je ne fais pas du perfectionnement, hein. je fais vraiment quand même de l'initiation. Mais les stages de 2 jours permettent aux gens de repartir en ayant vraiment les bases pour être autonomes, pour refaire chez eux s'ils veulent. Les teintures par ébullition. Pour la teinture, il y a ça. Et puis pour la laine, c'est pareil. Là, je fais des journées ou des choses comme ça sur le feutrage. Je suis en train de me dire que je voudrais peut-être faire des choses sur le tissage parce que ça intéresse bien. Voilà, je fais plein de choses. Et puis, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est m'adapter. Ce que j'aime bien, c'est quand des gens ont des demandes. Puis, à la limite, je fais un truc sur mesure, quoi. Mon objectif, c'est vraiment de transmettre. Donc, si une personne veut venir seule découvrir quelque chose, c'est tout à fait possible. Donc, voilà, moi, je suis à l'écoute pour les gens localement. Alors, bien sûr, je fais des choses pour les personnes qui sont là en vacances de façon ponctuelle, mais pour les gens locaux, mon but, c'est ça aussi, c'est d'essayer de créer un petit réseau, des habitués. Peut-être qu'un jour, je ferai des cafés tricots ou quelque chose comme ça, s'il y a un ensemble de personnes qui ont envie de se retrouver pour travailler la laine ensemble, quoi.
Donc, pour les auditeurs et les auditrices de Radio Royan, si vous avez des histoires de plantes, des histoires de couleurs ou des envies, vous pouvez contacter Véronique Thierry à l'atelier chlorophylle. Donc ton site web, c'est
atelierchlorophylle.fr.
Un pas de côté.
Merci donc à Véronique Thierry de Chlorophylle à la Chapelle en Vercors qui répondait aux questions de Charlène. Et Véronique a choisi de partager sa passion, n'est-ce pas Maëva ?
Véronique propose toute l'année des stages et des ateliers autour de la peinture et de la teinture végétale, ainsi que de la fabrication de laine feutrée. Le prochain stage aura lieu du 15 au 16 juin et toutes les infos sont sur son site internet www.atelierchlorophylle.fr.
Merci Maëva. Et pour notre deuxième sujet de reportage dans ce magazine Un Pas de Côté, on reste connecté à la nature avec une sortie au col de Carry pour un temps d'écoute et d'observation des oiseaux en compagnie de Romain Ribeiro qui est guide naturaliste. On écoute Romain au micro de Patrice.
Un pas de côté.
Passe au-dessus là. Ah bah voilà, on l'a entendu la maison Juppé là. C'est marrant, on les entendait pas tout à l'heure. Hein. Des fois je me demande si c'est pas une espèce d'alarme collective qu'on déclenche nous en arrivant. Ils nous identifient comme pas forcément prédateurs, mais il y a une présence. Du coup, ils annoncent ça à leurs collègues, quoi. Puis ça se répand. C'est ce qu'on a de plus commun hein, dans les forêts du Vercors. Là. Ce qu'on entend, c'est des chants de mésanges noires. Une des plus petites mésanges, là, qui fait 10 cm. Vous connaissez le chant de la mésange charbonnière, ça se ressemble beaucoup. C'est Romain, je suis guide naturaliste, habitant à Saint-Jean-Royan. Et depuis toujours, en fait, hein, j'ai été attiré par le règne animal, mais en général. Et puis, coup de chance, c'est que j'habite dans le Vercors. Donc forcément, ça a déclenché encore plus cette passion. Et puis au bout d'un moment, on fait les choses tout seul, puis on rencontre des gens, on progresse, on commence à apprendre des choses. Et puis à force d'accumuler des choses, on a envie de les partager. Ça fait toujours plaisir quand on partage quelque chose qui nous plaît, quoi. Maintenant, j'ai la chance de pouvoir faire ça, donc à savoir des sorties nature, voilà, des animations pour tout public, principalement dans le Vercors de Rome. Et pour traiter en particulier la faune, parce que c'est quand même le règne qui m'intéresse le plus et voilà, celui dont je passe le plus de temps à étudier aussi. Parce qu'au-delà de la partie animation, sortie, pédagogie, en fait, il y a différents suivis d'espèces que je réalise. en parallèle, et j'essaye de lier un petit peu les deux en fait.
Il y a aussi des activités dans des associations locales de...
Ouais, donc entre autres dans ces missions de suivi et d'animation, c'est directement en lien avec l'ALPO, la Ligue de protection des oiseaux, donc et de la biodiversité maintenant. Mmh. On a un groupe local dans le Royan-Vercors avec des actions spécifiques, c'est pour ça qu'on est un groupe indépendant en fait. Et parmi ces actions, on peut avoir du suivi de populations d'aigles royaux, des comptages chamois, et le suivi des petites chouettes de montagne, qui va peut-être nous concerner ce soir, si on a de la chance. C'est jamais une garantie, hein, au milieu des... dans un milieu naturel. Mais en tout cas, ouais, c'est en partie lié à l'ALPO, ce genre de suivi. Ouais. Alors là, on est sur le plateau du Vercors, au col de Carie. Voilà, une altitude de 1200 mètres. Donc on est sur une forêt qui représente bien celle du Vercors, à savoir type montagnarde. Donc là, autour de nous, imaginez qu'on est entouré de sapins, de hêtres, d'épicéas. Et forcément, quand on a une telle surface forestière, parce que le col de Carie, c'est entouré d'une forêt qui fait plus de 10 000 hectares, forcément, on n'est pas seul. Il y a des petites bestioles, des plus grandes. Et là, si vous tendez l'oreille, on entend... une ronde de mésanges. Une ronde, c'est qu'elles sont, elles sont groupées en fait, mésanges noires. Et tout à l'heure, on a eu les mésanges huppées. Mésanges huppées qui chantent un petit peu comme une bille qui rebondirait vite sur du carrelage. Là. Ça fait une vibration très aiguë. Elle nous passe au-dessus là. Ah bah voilà, on l'a entendu la mésange huppée là. Espèce de petite vibration qu'on entend. Après, les chants d'oiseaux, c'est souvent quelque chose chez les petits ou les grands qui peut freiner. On a l'impression que c'est inaccessible, que c'est compliqué, mais en fait, tout le monde a les moyens d'en apprendre davantage. En fait, c'est une question de sensibilité, quoi. C'est ce que je dis souvent, moi. C'est que chaque personne a son imaginaire, a ses moyens pour apprendre, pour associer un chant à une image, à quelque chose comme ça. Et en travaillant dessus, ça fait que décupler... l'apprentissage. Le plus dur, c'est le départ, hein, comme le solfège ou des choses comme ça. Et plus on apprend des chants, plus on progresse et on en apprend plus facilement d'autres. Parce qu'on retient des tonalités, des vitesses, plein de choses comme ça. Et on se rend compte que même dans nos forêts, parce que souvent, voilà, on pense à la faune exotique, tropicale, on a quand même une grande diversité, même à travers des chants. Si on entend un tétralyre, ça sera pas comme une chouette hulotte ou une buse, par exemple. Là, la différence, elle se fait bien nettement. Il faut mettre ça en pratique. C'est toujours pareil. Et c'est là où certains auront peut-être plus de facilité que d'autres. Donc, commencer par des espèces qu'on affectionne plus au début pour que ça suscite la motivation. Mais après, il n'y a pas de secret. Hein. De toute façon, c'est l'école de la nature. Voilà, c'est pas pour rien. Il faut passer du temps dehors. Ce qui peut aider aussi, c'est en même temps essayer de trouver l'oiseau qu'on entend. En ce moment, c'est une période qui s'y prête bien parce que les chants reprennent de plus en plus en intensité et il n'y a pas encore de feuilles dans les arbres. Donc visuellement, ça aide. Au printemps, ça va devenir compliqué parce que imaginez qu'on cherche un roitelet huppé, le plus petit oiseau d'Europe qui fait 8-9 cm de long, qui a 25 mètres dans un sapin. Vous allez y passer du temps là. Donc connaître les chants d'oiseaux, c'est aussi ça. Après, on a l'impression d'avoir... un genre de pouvoir, en fait, où sans forcément chercher les espèces, on peut détecter ce qui est présent, absent. Ça donne une bonne idée de la diversité qu'on peut avoir autour de nous.
Et l'oreille s'aiguise au fur et à mesure du temps.
Et après, ça se développe. Voilà, c'est toujours, comme je disais, une question de sensibilité.
Eh bien, merci en tout cas Romain pour cette chouette balade au son, au rythme des oiseaux. La nuit tombe, on va peut-être rentrer. On n'est pas forcément équipé pour passer la nuit ici. En tout cas pour te contacter, comment on s'y prend si on souhaite faire une sortie avec toi?
Je vous invite à aller sur mon site internet, donc c'est enquête-de-nature26.com. Où vous verrez un petit peu une présentation de mes activités en général, les suivis, tout ça. Et autrement, mon numéro de portable, donc 06 17 21 03 14, 06 17 21 03 14, et mon adresse mail enquête-de-nature.26@gmail.com. Et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Merci à vous.
Merci. On précise que dans la Gazette de l'Office de Tourisme Vercors-Drôme, tes sorties sont mentionnées, notamment pour ces sorties autour des chouettes.
Exactement. Voilà, chaque sortie, chaque programmation paraît dans la Gazette et sur le site vercorsdrome.com.
Super, merci beaucoup. À très bientôt.
Merci.
Un pas de côté.
On a écouté Romain Ribeiro, guide naturaliste, sur le Royan-Vercors. Et si vous aussi, vous êtes en quête de nature, retrouvez Romain lors de ses différentes sorties nature. Lors de ses sorties nature, Faune Sauvage le 8 juin et le 15 juin, et Sortie Loup le 22 juin.
Voilà donc pour les dates des prochaines sorties proposées par Romain Ribeiro. Et des chants d'oiseaux, donc avec Romain, on passe maintenant aux chants polyphoniques, aux chants du monde ou encore aux chansons françaises avec un week-end chantant, un festival dédié aux chants qui est organisé les 29 et 30 juin à Vassieux en Vercors. Il est organisé par Vent du Vercors, une association culturelle qui existe depuis 2021. Radio Royan Vercors a reçu Isabelle et Marie-Christine de l'association Vent du Vercors. On écoute.
Un pas de côté.
Donc alors, Marie-Christine et moi, nous faisons partie de Vent du Vercors. C'est une association à visée culturelle. Son siège est à Vassieux-en-Vercors. Pour l'instant, on a essentiellement fait des événements musicaux. Mais on a eu, au mois d'avril, on a accueilli un duo de clowns. Et pourquoi pas plus tard, des expositions, un spectacle de danse. Enfin, après, tout est permis. Et du coup, l'association, elle existe depuis 2021. Et au moment de sa création, le Covid est arrivé par là, donc on a été retardé un peu dans tous nos projets et nos envies. Mais là, depuis 2 ans maintenant, ça prend une autre dimension, notamment avec un week-end chantant qui aura lieu les 29 et 30 juin pour la 2e édition. Ça se passe donc à Vassieux. Alors, des concerts ont lieu ou à l'église ou à la salle des fêtes.
À 10h, c'est l'ouverture du festival. À 11h, on a un chœur, ce qu'on a appelé chœur d'un jour de jeunes Vertaco. C'est les enfants des écoles de Vassieux, en Vercors et de Saint-Agnan, qui ont un spectacle autour de la chanson « Les mots magiques » d'Anne Sylvestre. Et l'intervenante musicale est Isabelle Gourge. Elle intervient dans les écoles sur le plateau. À 12h, il y aura scène ouverte et restauration buvette. 14h30, chante-caille, donc groupe vocal de 12 personnes, de Vassieux, avec notre chef de chœur qui est Joël Truffat. On chante quoi, des chants du monde, polyphonie, création locale, avec accompagnement, quelques instruments, etc. Donc ça peut être des berceuses bulgares, chants sacrés, corses, chants révolutionnaires, etc. 16h30, Canopée, c'est un groupe vocal de 5 personnes qui viennent de Clermont-Ferrand. Ils chantent a cappella, ils n'ont qu'un instrument. Ils interprètent ce qu'on appelle des chants sacrés du Nouveau Monde. C'est un répertoire composé de musique ancienne, américaine, qui date du XVIIIe siècle et qui s'est ensuite enrichi en devenant un peu plus folk. Ils sont déjà venus plusieurs fois dans le Vercors. Moi, je les ai vus l'année dernière, c'est vraiment très beau. De nouveau une scène ouverte. 19h, il y a repas avec des produits locaux de qualité. À 20h30, on a un chœur mixte du Vercors. C'est plutôt Vercors Nord, les personnes qui viennent. C'est un groupe vocal et instrumental. Ils sont entre 10 et 11. C'est un spectacle qui s'appelle Le Temps des Papillons. Et en fait, ce sont des chants du monde, chants français avec mise en scène. Et le nom du groupe s'appelle Les Azimutés. dimanche, on a un ensemble vocal de Cré qui s'appelle Sarava. Ils sont environ 20 choristes. Le répertoire est très éclectique avec des chants d'Europe, Afrique, Amérique du Nord, du Sud, et qui est dirigé par chef de chœur Myriam Sidi. C'est tantôt a cappella, tantôt accompagné d'instruments. À 12h, c'est la fanfarale. On est une quinzaine de chanteurs qui viennent du Vercors, et la direction on est sous la houlette en fait de Denis Schwab et Michel Fontaine, parce qu'en fait il y a des voix, des instruments, mais aussi des costumes, un peu de mise en scène, et ce sont des chants de l'Europe de l'Est. À 13h, de nouveau scène ouverte et restauration buvette. À 14h30, le chœur de femmes. Alors maintenant, elle m'a dit, la chef de chœur, qu'il y a maintenant un petit peu d'hommes. Donc ça ne s'appellera plus chœur de femmes. Il s'appelle Voix vivante, donc sous la direction de Carole Jacques. C'est un ensemble vocal qui vient du Diwa. Les chanteurs évoquent les cycles de la vie, la terre, l'amour, la liberté. Il y a des textes d'auteurs, des chants arabes, bulgares, français, etc. Avec des percussions corporelles, enfin bon, pas mal de choses diverses et variées. À 16h30, trio Nana Silla, qui est un trio vocal féminin qui vient de l'Isère. Et le thème est un conte populaire bulgare qui s'appelle « La fiancée du vampire » et qui est revisité et mis en musique et en chant polyphonique. Et donc, c'est à partir de 6 ans. C'est de 6 ans à 99 ans.
Pour les scènes ouvertes, ce serait intéressant que, enfin, préférable pour nous, en tout cas, point de vue organisation, que on sache si vous avez envie de venir, passer un petit coup de fil ou envoyer un mail. Ça sera mieux parce que comme ça, on pourra savoir combien de personnes, et aussi en fonction du nombre de personnes, si vous pouvez chanter une chanson ou trois ou cinq, en fonction du nombre de personnes intéressées. Pour vous inscrire, il y a un numéro de téléphone. Le 06 83 79 14 71. Et aussi à l'accueil si jamais vous n'avez pas pu le faire et si jamais il reste de la place. Merci à vous.
Donc voilà pour la programmation donc du week-end chantant qui aura lieu donc le 29 et 30 juin à Vassieux. Donc c'est à la fois à l'église et à la salle des fêtes. Pour covoiturer, il y a un réseau de covoiturage qui a été mis en place sur mobicop.fr.
Voilà, il y a tous les renseignements. Vous pouvez commencer à avoir des affiches un peu partout. Et on a un flyer qui est fait avec tous les renseignements. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est assez éclectique. Il y a la chanson française, mais il y a aussi des chants du monde, chants polyphoniques, avec des musiciens ou pas, a cappella ou non. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Je pense que c'est vraiment pour tous les âges. Et c'est pas très cher, puisqu'on peut prendre un pass pour le week-end à 20€ pour tous les concerts. Et sinon, tous les concerts seront à 5€, sauf le dernier qui est à 10€ sur le compte musical Nana Silla. Et il faut ajouter, en plus des scènes ouvertes, en plus de tous ces concerts, il y a une restauration et une buvette ouverte toute la journée pour les renseignements, pour manger. Restauration locale est faite par l'association, faite par l'équipe de cuisine de restauration de Vents du Vercors.
Un pas de côté.
Et voilà donc pour ce zoom sur l'un des temps forts organisés par l'association Vents du Vercors à Vassieux en Vercors, le Week-end Chantant, qui est donc un festival dédié au chant et qui aura lieu les 29 et 30 juin 2024. Et nous arrivons au bout, Maëva, de cette émission Un pas de côté, votre magazine d'évasion touristique en Vercordrome. On peut donc réécouter cette émission sur notre site internet radioroyant.fr. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous, non pas le mois prochain puisque nous faisons une pause estivale, mais à partir du mois de septembre pour un nouveau pas de côté. Merci Maëva.
Merci Anouchka.
Un pas de côté.